Europe 1, votre matinale info.
Sébastien Guyot. Bonjour Lénaïc Monnier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
6h, l'heure du premier journal.
Congélateurs augmentent leur température très rapidement. Donc toute la logistique qu'on met en place, c'est d'avoir une surveillance 24/24 sur la température.
Des doses stockées au grand froid et injectées dès aujourd'hui. La campagne de vaccination contre le Covid débute ce matin en France.
Les premiers patients, des personnes âgées, pourront être vaccinés dès 10h30 ce matin, à condition qu'elles aient donné leur accord.
Dernier week-end européen pour les Britanniques. Nous serons dans le Kent dans ce journal où depuis 4 ans, on attend impatiemment le Brexit.
Et puis un fast-food à Pompéi. On vous raconte cette incroyable découverte à la fin de ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc ce matin que débute la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France et ce sont deux EHPAD qui sont en première ligne.
L'un à Sevran, l'autre à Dijon. Priorité donc aux personnes âgées, mais à une condition, qu'elles aient donné leur accord à cette vaccination et qu'elles soient aptes à se faire injecter le vaccin. Et c'est pour cela, Anne Le Gall, que chaque patient doit consulter son médecin avant. Alors comment se passe cette visite préalable ?
C'est une consultation en face à face, si possible avec le médecin traitant, qui doit se faire au plus tard dans les 5 jours qui précèdent la vaccination. L'objectif, c'est de faire un bilan global de l'état de santé de la personne à vacciner, de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication, comme le fait d'être allergique à un composant du vaccin, par exemple, ou encore d'avoir présenté des symptômes du Covid dans les 3 mois précédents. Il faut aussi compter 3 semaines d'écart avec une éventuelle vaccination contre la grippe. Le médecin détaillera aussi les chiffres définitifs. L'efficacité du vaccin Pfizer expliquera son utilité, les effets secondaires. Rappelons que selon l'avis de la Haute Autorité de Santé paru cette semaine, ce vaccin Pfizer-BioNTech est plutôt bien toléré. Il peut y avoir une douleur au point d'injection, un peu de fatigue, des courbatures, mais ces effets disparaissent au bout de quelques jours. C'est à l'issue de cette consultation pré-vaccinale que le patient seul ou la personne de confiance qui l'accompagne donneront leur accord ou pas pour la vaccination. Il sera possible de demander un délai de réflexion supplémentaire, mais seulement si c'est compatible avec le calendrier de commande des vaccins, puisque c'est bien sur la base de ces consentements que les EHPAD pourront demander la livraison des doses nécessaires.
Les précisions d'Anne Le Gall pour Europe 1.
Et ces premières doses de vaccin, elles ont été acheminées hier par camion frigorifique.
Oui, c'est l'une des difficultés à conserver ce vaccin qui ne supporte pas les températures au-dessus des moins 80 degrés. Ils seront donc entreposés dans des super congélateurs. Mais alors à quoi ça ressemble, Maximilien Carlier ?
Eh bien, ce super congélateur, ce super frigo n'a pas de dimension hors norme. Il fait quasiment la même taille que votre réfrigérateur. 2 mètres de haut environ. La différence, c'est qu'il a 2 portes. Une première très épaisse, puis une autre. Tout ça pour conserver le vaccin à moins 80 degrés. Pascal Audoux, responsable de l'Institut de pharmacie de Lille.
Il faut savoir que ces congélateurs augmentent leur température très rapidement s'il y a un moindre souci. Donc toute la logistique qu'on met en place, c'est d'avoir une surveillance 24/24 sur la température.
Il peut stocker jusqu'à 300 000 doses qu'il faudra manipuler avec du matériel, bien sûr.
On aura des gants, hein, on a des lunettes qui vont permettre d'éviter que le froid ne soit trop en contact avec la peau et de brûler en fait les personnes, parce qu'à moins 80, on commence à avoir des brûlures si on a des morceaux de glace qui tombent, etc.
Pas question de dévoiler l'endroit où est situé ce super congélateur. Question de sécurité.
La salle est totalement fermée et destinée qu'à quelques personnes.
Et 6 autres hôpitaux de la région vont stocker ces vaccins, mais dans des quantités moins importantes, capacité limitée à 100 000 doses. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et journée de vaccination qui intervient au moment où l'adhésion n'est pas si évidente que cela. Le JDD nous apprend ainsi ce matin que la France est l'un des pays les plus méfiants. 44% des Français interrogés se disent prêts à se faire vacciner. Et ce sont les plus jeunes qui sont les plus réticents.
Il n'est pas forcément plus dangereux, mais il est plus contagieux. On reparle ce matin de ce variant du virus anglais.
Oui, qui a fait son apparition en France. Et au moment où l'on vaccine, se pose logiquement la question de savoir si cette nouvelle souche pourrait rendre caduques les doses injectées. Écoutez la réponse de l'épidémiologiste Antoine Flao. Il est directeur de recherche à l'Université de Genève.
Heureusement, tout le monde pense que non. C'est pas du tout quelque chose qui est évoqué par les experts, même les plus pessimistes aujourd'hui, puisque les mutations concernent une toute petite partie de la protéine, la fameuse protéine spike, qui est cette protéine contre laquelle on essaye de développer une immunité par les vaccins. Cette protéine a donc très peu changé. En fait, le génome du coronavirus est un génome à ARN, et c'est un génome très long. Enfin, c'est le plus long de tous les virus ARN connus. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup de mutations pour que ce nouveau virus généré par ces mutations soit rendu résistant au vaccin.
Antoine Flao, directeur de recherche à l'Université de Genève, avec Lionel Gougelot, virus mutant aussi détecté en Espagne. Il s'agit de personnes arrivées récemment à Madrid depuis le Royaume-Uni. On l'a également repéré au Canada.
6h05 sur Europe 1, un peu de lecture en ce dimanche matin. Vous avez 4 jours pour tout connaître de l'accord conclu jeudi entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
1246 pages avant ce divorce à l'amiable. Ensuite, place au Brexit. Les Britanniques vivent donc leurs dernières heures européennes et il est temps pour les habitants de Maidstone, car la capitale du Kent a voté en majorité pour le Brexit il y a 4 ans. Reportage signé Marion Gauthier.
Maidstone est une ville grise, fatiguée par 4 ans de débats qui ont divisé sa population. En ce dernier dimanche européen, Wendy se rappelle l'après-Brexit quand elle est venue de Londres s'installer ici.
Disputes en famille, au bureau, c'était triste. Heureusement, nous en sommes sortis. Maintenant, nous espérons simplement que les choses s'améliorent.
Pas de grandes manifestations de joie prévues pour le nouvel an. Chacun attend de mesurer les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sur son quotidien. Mais Leslie s'impatiente. Elle, qui voulait plus d'indépendance, va bientôt voir son pays détaché de Bruxelles.
Je pense que nous devons avoir le contrôle de notre propre pays. Il ne faut pas tous avoir les mêmes règles ni former un même cluster.
Derrière son masque, Ayen cache un sourire amer. Lui travaille dans une entreprise alimentaire. Il a voté pour le Brexit contre l'immigration que certains disaient incontrôlée pendant la campagne.
C'est regrettable. Le Brexit affecte mon commerce. Quand je vais retourner au travail en janvier, mon job aura changé. Beaucoup de procédures, beaucoup de paperasse. C'est beaucoup de délais à prévoir aussi.
Ayen n'a pas pris connaissance des détails de l'accord volontairement. Encore quelques jours de répit avant que le Brexit n'entre en application. Il sera toujours temps de réaliser. Maidstone, Marion Gauthier, Europe 1.
Le Royaume-Uni qui a perdu les Nike hier, l'un de ses personnages les plus haïs.
Et oui, l'espion George Blake, mort à 98 ans en Russie, pays qu'il renseignait depuis des années, car Blake était un agent double. Et Gian Bergawi, il a livré au KGB de l'époque nombre de ses compatriotes britanniques.
Oui, c'est bien par conviction que George Blake passe à l'ennemi. En 1950, le MI6, les services de renseignement extérieur britanniques, l'envoient en poste à Séoul, en pleine guerre de Corée. Là-bas, il voit les civils mourir sous les bombes américaines. L'espion conclut qu'il ne se bat pas du bon côté. Les Nord-Coréens le capturent en prison. Il embrasse la cause communiste et offre alors ses services aux soviétiques. En 1955, il s'installe à Berlin pour le MI6. Mais en réalité, l'agent double informe le KGB. Il leur livre des documents top secret, révèle l'identité d'un peu plus de 500 agents. En 1959, George Blake est démasqué, dénoncé par un autre agent double. La justice britannique le condamne alors à 42 ans de prison. Il s'évadera 5 ans plus tard à l'aide d'une simple échelle en corde. George Blake parvient à rejoindre clandestinement l'URSS. À son arrivée, le KGB lui décerne le rang de colonel. S'il n'a jamais regretté ses actes, l'espion a tout de même reconnu avoir déchanté devant la réalité de l'idéal communiste. Pas de quoi ternir sa réputation en Russie. Vladimir Poutine salue le souvenir brillant de cet homme légendaire qui restera à jamais dans nos cœurs.
Le récit de cet incroyable destin signé Gian Bergawi. Oui, on a tous en tête les représentations de grands banquets romains. Eh bien, on apprend que les habitants de Pompéi avaient aussi un faible pour les fast-food.
Oui, en latin, on appelle ça un thermopolium. En gros, c'est un endroit où on vient manger rapidement, retrouvé intact, figé dans la cendre du Vésuve. Damien Mestre.
Il y a encore le large comptoir du tenancier de l'établissement et les jarres en terre cuite dans lesquelles il entreposait la nourriture. Du canard, du porc à manger sur le pouce, comme dans un fast-food, expliquent les scientifiques. Et puis du vin, pas cher, beaucoup de vin même, à en croire les archéologues comme Béline Pasquini de l'Université Paris 1.
C'est des établissements qui sont sympathiques parce que souvent, il y a des graffiti sur les murs laissés par des clients. Par exemple, vous allez avoir un dialogue entre des clients qui sont en train de s'invectiver, puis un type qui écrit « mais fermez-la, vous êtes lourd ». Puis il dessine le petit aubergiste qui dit « hors de mon établissement ».
Un lieu très vivant donc dans ce thermopolium que l'on a commencé à exhumer dès l'année dernière. On a par exemple trouvé le corps d'un homme, très certainement celui d'un brigand, explique le responsable du site de Pompéi. Le voleur tentait de dérober de la nourriture et en a retrouvé dans sa main le couvercle du pot qu'il venait d'ouvrir. Ces établissements sont bien connus par les scientifiques. Pompéi à elle seule comptait 80 thermopolia. Mais cette découverte permet de mettre à jour les connaissances et d'en savoir plus, notamment sur les habitudes gastronomiques de l'époque.
Les années passent et ça ne change pas. Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau, toujours chouchou des Français.
Voilà, dans le top 50 annuel du JDD, où deux cuisiniers, Philippe Etchebest et Cyril Lignac, font leur entrée. Dans ce classement, pas de chanteur d'opéra, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en écouter ce matin. L'Opéra de Paris a mis en place une plateforme pour découvrir les plus beaux airs ainsi que de grands ballets. Diane Chénouda.
La Bayadère, c'est l'un des plus beaux ballets de Nourrieff. Un ballet exotique qui nous transporte en Inde avec ses décors et costumes féeriques, avec 8 danseurs étoiles qui se succèdent à chaque acte. De l'opéra aussi. Avec Carmen, là encore une distribution flamboyante, avec Roberto Alagna.
Carmen, je suis comme un homme ivre.
Alagna qui a lui-même imaginé cette mise en scène spectaculaire pour cette Carmen décalée. Et puis, la Traviata, dans une mise en scène ultra-moderne, avec une Violetta du 21e siècle, interprétée par une soprano sud-africaine. Retenez son nom, Pretty Yenda, c'est la révélation de cette Traviata ébouriffante.
Et la Traviata chez soi, via la plateforme de l'Opéra, c'est 10 euros seulement.
Merci Lénaïque Monnier, vous revenez tout à l'heure à 7h pour votre prochain journal sans faute.